Cette émission vous est proposée avec la lumineuse participation de Brian Lefebvre, Anis, Pascal Germain, Vincent Donden, David Catu, Nicolas Christ, Ludovic, Nicolas Joly, Olivier Laprès et Alexandre Chiriac. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle qui vous résume l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de Microsoft avec leur conférence Build dédiée aux développeurs. On va vous parler de Tesla qui veut réinventer l'énergie et la conservation d'énergie avec des batteries pour la maison, et de l'Apple Watch, nos impressions quelques jours, allez, une dizaine de jours après le lancement. Et pour m'aider à couvrir tous ces sujets, j'ai deux animateurs compétents et sympathiques. J'ai nommé l'habituel Jeff Clavier qui nous rejoint de San Francisco. Comment ça va, Jeff ?
Ça boum, il fait un temps pourri aujourd'hui à San Francisco, c'est rare, puisqu'on n'est pas encore en été, donc c'est en été, on a le moment les pires en termes de météo, mais c'est toujours un plaisir de vous rejoindre et ça me met de la chaleur au cœur parce que dehors, il fait froid.
Bah écoute, c'est un petit peu le même problème à Paris, on a un temps bien pourri également et Jeff, donc tu es mon rayon de soleil du jour.
Merci.
Je m'attendais au moins à un petit peu d'émotion, mais je sais que les Américains, ils montrent pas
les
émotions.
Merci, mon Patrick.
Voilà, c'est bien. Et on a aussi avec nous, pour plus particulièrement pour nous parler de Windows, mais pour toute la tech en général, on a notre camarade Kassim qui nous rejoint entre autres du podcast Lifetile, donc l'un des indéboulonnables défenseurs de Windows. Comment ça va, Kassim ?
Ça va très bien, bonsoir à tous. Et est-ce que tu savais que ton podcast était en plus sponsorisé par Microsoft aujourd'hui ?
Ah oui ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
Dans les personnes que tu as remerciées, il y a David Catu qui est un des membres de l'équipe de Microsoft Edge, le navigateur.
Ah mais je ne le savais même pas, figure-toi. Voilà. Écoute, je suis doublement heureux de pouvoir parler de Microsoft aujourd'hui du coup. J'espère qu'on aura des choses bien à dire. Ça c'est pas garanti, mais
alors qu'on soit clair, ça va pas m'empêcher de cracher sur Microsoft, hein.
Ah non. Bah on a toujours été honnête.
On est indépendant.
Ceci dit, je dois quand même préciser que l'icône, enfin l'image de l'avatar Skype de Kassim, c'est quand même une licorne qui crache du feu avec un drapeau Microsoft, Windows et Xbox. Donc ça ne s'invente pas, c'est assez magnifique, j'avoue.
J'ai beaucoup aimé, enfin j'avais trouvé très drôle l'image, enfin c'est une image connue d'Internet qu'avait repris Microsoft, je trouvais ça marrant, mais après...
Elle est pas mal. Bon, bah merci à tous les deux d'être là. Écoutez, je vous propose qu'on se lance immédiatement dans la découverte des news du jour avec, comme je le disais, la conférence Build de Microsoft qui, comme tous les ans, a réuni énormément de monde avec quelques annonces intéressantes. C'est une conférence qui est dédiée aux développeurs et franchement, sur la présentation, sur la keynote de la première journée, j'avoue que ça s'est un petit peu senti. Il y a eu une première... une heure et quart, qui était franchement aride, mais je me suis forcé.
C'était chiant.
Qu'il fallait. Voilà, Kassim, si même Kassim le dit. C'était quand même un petit peu long, si on n'était pas développeur, forcément ça ne nous était pas destiné. Mais il y a eu ensuite des choses intéressantes. Pour dire rapidement ce qui s'est passé, il y a eu des annonces sur Azure, sur le cloud computing, qui est toujours particulièrement mis en avant par Satya Nadella et par Microsoft. Il y a eu des annonces sur un mini Visual Studio, en fait, qui s'appelle Visual Studio Code pour Windows, Mac et Linux, et une ouverture d'Office 2016 qui pourra intégrer en cross-plateforme des applications de développeurs tiers. Et la raison pour laquelle je parle de toutes ces choses-là, c'est que ça montre à quel point Windows et Microsoft aujourd'hui sont ouverts là où ils étaient extrêmement protecteurs de leurs produits, encore sous Steve Ballmer. Là, on a vraiment encore une fois la preuve que Microsoft est en train de se transformer et a cette volonté d'être absolument partout. L'une des déclarations qui m'a fait, qui m'a paru particulièrement parlante, c'était la citation selon laquelle il disait « Windows est le seul écosystème, ou sera le seul écosystème, qui vous permettra d'amener vos apps à tous les écosystèmes. » Il veut que tout Windows soit partout, que Microsoft soit partout. Et ils estiment, pour essayer d'attirer tous les développeurs, d'être intéressants pour tout le monde, ils ont mis en avant un chiffre qui était la prédiction qu'ils auraient, après 2 à 3 ans après le lancement de Windows, 1 milliard de devices Windows 10 sur le marché. Alors évidemment, on se rend compte qu'ils parlent aux développeurs, mais 1 milliard, c'est un chiffre considérable. On se rend compte que les appareils Android ou iOS se comptent en centaines de millions sur le marché, et c'est déjà beaucoup. 1 milliard, évidemment, on réunit Windows 10 sur le desktop, Windows Phone, Windows peut-être même qu'il compterait dans ces chiffres des appareils un petit peu plus modestes, peut-être même des appareils sur l'Internet of Things. Mais il n'empêche, 1 milliard 2 ou 3 ans, 1 milliard de Windows 10 sur le marché 2 ou 3 ans après le lancement, c'est ambitieux. Ça vous semble crédible ou c'est Alors, deux questions. Est-ce que ça semble crédible? Est-ce que c'est important? Et je pose la question à Kassim, donc, qui est peut-être plus expert sur Windows.
Alors, en plus, on a eu un élément de réponse aujourd'hui, parce que donc aujourd'hui, il y avait lieu une autre conférence qui est Microsoft Ignite. Et il y a Terry Myerson, qui est le chef de la division Windows, qui est revenu sur un autre élément, qui est Windows Update. Et il a parlé, en fait, il a dit qu'il y avait 858 millions de PC qui étaient mis à jour tous les mois sur Windows Update. Et 858 millions de PC mis à jour sur Windows Update, ça veut dire qu'ils sont encore pris en charge. Donc, c'est-à-dire que ça élimine tous les PC qui sont sous Windows XP, par exemple. Et donc, ça veut dire 858 millions de PC qui sont sur Vista, Windows 7 ou Windows 8. Environ Vista, qui a des parts de marché qui sont très faibles, et en ne gardant que Windows 7 et Windows 8, qui sont éligibles à la mise à jour gratuite vers Windows 10, on va aller, à la limite, il y a 58 millions de PC qui sont sous Windows Vista dans le monde, et encore, ça me paraît assez élevé. Ça ferait 800 millions de machines sous Windows 7 ou plus, et qui seraient donc éligibles à la mise à jour gratuite vers Windows 10. Donc ça ferait déjà 800 millions sur 1 milliard, c'est déjà un bon chiffre.
En admettant qu'ils fassent tous la mise à jour, ce qui n'est pas garanti, mais c'est quand même une base importante. Ouais.
Mais bon, avec une mise à jour gratuite, et si Windows 10 est populaire, il pourrait avoir le fait que Windows 10 ne demandera pas des performances supplémentaires par rapport à Windows 7 ou Windows 8, tend à penser que au moins Microsoft pourra rapidement au moins atteindre un bon morceau de son objectif. Après, ça me paraît quand même ambitieux. Ça me paraît ambitieux, mais réaliste, mais faisable.
Ouais. Surtout qu'ils disent 2 ou 3 ans après le lancement, ils se laissent quand même un petit peu de marge. En matière informatique, c'est long, c'est assez long, 2 ou 3 ans.
Ça inclurait aussi les Xbox aussi dans les machines, du coup. Les oui. Xbox One, bon, qui est un peu en retard par rapport à la PlayStation 4, mais qui quand même doit compter en plusieurs millions.
Tout à fait, ouais. Oui, c'est certain. Et puis, on compterait aussi les Windows Phone. Ils parlent vraiment de device, donc c'est très large. Mais alors, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui compte? Bon, j'imagine, tout de suite, on pense aux développeurs, évidemment. Jeff, est-ce que là, ça pourrait, à ton avis, convaincre certains développeurs qui recherchent forcément une base installée importante et qui avaient été peut-être déçus ou rebutés par un lancement de Windows, des Windows précédents qui n'étaient pas aussi convaincants qu'il aurait pu l'être, à savoir Windows 7 qui a fini par prendre, Windows Vista, bon, clairement pas un aussi gros succès qu'il l'aurait espéré, Windows 7 qui a quand même pris, Windows 8 très décevant, on en a parlé en termes d'adoption et d'expérience utilisateur. Est-ce qu'ils sont pas en train, moi c'est mon impression, est-ce qu'ils sont pas en train de bien faire les choses pour attirer les développeurs là, en essayant de faire miroiter une base installée aussi énorme?
Je pense que soit tu es un développeur qui fait du natif, c'est-à-dire tu développes effectivement sur Windows et sur Mac, auquel cas tu ne peux pas ne pas se développer sur Windows 10, soit tu es un développeur web et en gros tu t'en fous, quoi. Et pour être très honnête, la plupart des services dans lesquels nous on investit, soit c'est du pur web, soit c'est du pur mobile. Et donc, ça fait très longtemps qu'on n'a pas regardé, tu vois, une solution native où l'OS était effectivement important. Donc, pour moi, la grosse question, c'est sur Windows Mobile plutôt que sur l'OS lui-même. Les chiffres qu'on entend sont réalistes. Le truc qui me fait toujours tiquer, c'est de dire, bon, ta machine qui est vieille de quoi, 4-5 ans, qui avait été faite pour faire tourner Windows 7, sera capable de faire tourner Windows 10 sans dégradation de performance. Ça je ne l'ai jamais vu. Donc, c'est toujours le bémol qu'il faut mettre. Moi, malheureusement, j'avais une machine Windows 7, j'ai essayé de l'installer en Windows 8 et l'install a systématiquement crashé au dernier moment. Donc, je suis toujours stuck en Windows 7. Si je peux faire tourner Windows 10 dessus, tant mieux. Mais je ne suis pas sûr que ça tourne avec des performances décentes.
Moi, j'y crois quand même. Moi, j'y crois, mais c'est intéressant ce que tu dis sur l'aspect application web. C'est sûr qu'il y a énormément de services aujourd'hui qui sont plutôt orienté sur le web et qui ne se soucie pas de la plateforme sur laquelle ils vont tourner, hormis pour les plateformes mobiles. Mais là où il y a une unification des écosystèmes Windows et qui inclut en fait le développement mobile quand on développe une application Windows, parce que on le sait, les développements seront extrêmement facilités pour toutes les différentes versions de Windows avec un cœur commun à tous les Windows 10. Il y a aussi une autre annonce qui était, je pense, tu me dis Kassim si je me trompe, mais je pense l'annonce la plus importante pour les développeurs pour Windows qui est le fait d'avoir quatre nouvelles technologies pour amener les applications à Windows et Windows Store. Et ils les ont détaillées. Je vais passer rapidement sur les deux premières et puis on va parler un petit peu plus longuement des deux suivantes. Les deux premières, c'était le fait de facilement développer des applications web ou des sites web, des web apps en version Windows App, avec la possibilité d'avoir accès pour ces applications aux facilités de paiement de Windows, ce qui est quelque chose d'important. Et on peut penser que les applications natives sont un petit peu vieux jeu, mais je sais qu'il y a plusieurs services qui choisissent de développer des applications natives Windows. Je pense à Slack, notamment, qui est un outil de travail collaboratif, de discussion collaborative, qui a le vent en poupe en ce moment dans la Silicon Valley. Et ils ont choisi de faire une application Windows et ils l'ont faite à partir de leur application web. Et donc, c'est quelque chose dont, je pense, certains développeurs pourraient apprécier. Il y a aussi le fait de pouvoir intégrer des applications .NET ou Win32, ce qui est, à la limite, parlera pas forcément à énormément de monde, mais qui est important pour les développeurs. Kassim, tu voulais dire quelque chose à ce propos ?
Alors les développeurs en général, j'ai un peu peur, même dans la stratégie application universelle, j'ai un peu peur que ça intéresse quand même pas certains services qui sont ultra mobiles. Par exemple, je pense à Instagram, à qui ça parlera pas forcément d'avoir une base installée de PC sous Windows importante, parce que même s'ils font une application universelle Instagram, la version PC, ça les intéressera pas finalement. Ils compteront que le parc installé de Windows Phone, qui sera forcément pas très élevé.
Non, c'est sûr, mais je crois pas que ça soit pour des applications comme Instagram qu'ils ont pensé
non,
la chose.
Sûr. Mais ça veut dire que ça va pas concerner. Enfin, il y a quand même des grosses applications qui seront pas forcément concernées.
C'est sûr.
Ça. Et donc pour la partie web, je pense que pour la partie application web. L'intérêt, je pense, c'est aussi pour un site ou un service qui se lance et qui a déjà une application iOS ou Android, de rapidement proposer au moins un placeholder sur le store pour éviter d'avoir des copies.
Alors là, il faut. Tu parles en fait, tu brûles les étapes. C'est ce dont je voulais parler ensuite.
Non, je veux dire.
Tu veux dire
le
en
fait
ayant
d'avoir
un
site web sous forme de disponible sur le store, c'est vraiment l'étape 1, comme ça. Tu t'embêtes pas, tu mets juste ton site web et au moins t'as la place dans le store qui est pas prise par une copie ou un faux, par exemple un Google Maps ou Ouais. qui serait facturé 3 euros au client, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on parle de cette facilité d'accès et le fait de pouvoir faire ça facilement. C'est sûr que ça va pas forcément être utile à tout le monde, mais par contre, ça peut être utile à certains. Et je pense que c'est la même réflexion que pour les deux technologies suivantes dont on va parler tout de suite, c'est que je pense pas qu'ils aient fait la chose pour convaincre tout le monde, mais simplement pour fournir plus d'outils aux développeurs qui souhaiteraient rendre possible le fait d'accéder à leurs applications sous Windows aussi. Et quand on parle de ces deux outils suivants, à savoir pour Android, en fait, les deux grosses bombes, ça a été le fait qu'on puisse désormais utiliser des applications développées pour Android facilement sur Windows, ce qui inclut évidemment Windows Phone. Donc il y a différents moyens de prendre l'application qu'on a développée sur Android, en Java, en C++, et de la transférer directement sous Windows, Windows 10 normal et Windows Phone, plus précisément, pardon, c'est uniquement Windows Phone, tu le précisais, Kassim. Donc une application Android tournera très facilement sous Windows Phone. Donc ça permet aux développeurs de ne pas avoir à redévelopper l'application pour Windows Phone. Pareil pour iOS, les applications Objective-C d'iOS pourront être recompilées pour Windows et Windows Phone plus précisément. Alors là où c'est quelque chose d'intéressant, c'est que, on le sait, on va penser plutôt à Windows Phone, il manque d'applications. Je pense que c'est un OS qui est apprécié des personnes qui l'utilisent, mais malheureusement, les parts de marché ne sont pas suffisamment grandes pour que les développeurs investissent du temps dans le développement d'applications dédiées à Windows Phone. Là, leur idée sera d'essayer de faciliter ce développement et, par ce biais, de ramener plus d'applications sur leur store. Est-ce que j'analyse bien la chose, Kassim ?
Oui, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, enfin, la partie après sur iOS, que ce soit enfin Android ou iOS, ils ont carrément annoncé après que Candy Crush, qui est disponible depuis 6 mois sur Windows Phone, utilisait cette technologie-là.
Et, donc elle marche vraiment et que c'est quelque chose.
Oui, voilà,
ça
marche vraiment, que c'est déjà implémenté. Et que ça a convaincu au moins le développeur de Candy Crush, par exemple, de porter son application sur Windows Phone sans, d'après eux, sans trop de difficultés, quoi.
Est-ce que tu penses, Jeff, que ça peut intéresser les développeurs, toi qui leur parles quotidiennement, ou est-ce que ça va être du genre, c'est une chose en plus à devoir maintenir, et du coup, même si c'est facile, ça vaut pas le coup, ou est-ce que ça va leur permettre d'avoir accès à un marché plus grand, plus important ou...
Bah c'est ça le gros problème, c'est ce que tu mentionnes. C'est-à-dire que attaquer une nouvelle plateforme, c'est un coût de développement, c'est un coût de test et un coût de support. Et donc, ok, on entend là que le coût de développement est zéro. J'ai jamais vu des émulateurs ou des choses comme ça qui marchent tout le temps, surtout pour des applications qui sont très lourdes au niveau graphisme, au niveau animation, ce qui est le cas de beaucoup de services que tu vois aujourd'hui sur le téléphone. Et donc, Il y a la question du est-ce que je ne vais pas trouver des bugs sur la plateforme de migration et donc ça prend du temps à gérer. Imaginons que ça marche sans problème et que tu as réellement une expérience où je prends mon code, je le compile, c'est magique. Après, tu dois avoir des gens qui utilisent le Windows Phone. Ça, ce n'est pas évident parce que tu n'en as quand même pas beaucoup. Donc, ça veut dire des efforts de test, des efforts de support séparés. Et très honnêtement, il faudrait que je sois vraiment convaincu que ça vaut le coup en termes de pénétration de recommander ça à mes startups qui ont déjà des millions de downloads. Parce qu'au tout début, c'est même pas en rêve. De toute façon, on se focalise sur iOS. Je veux dire, plein de nos boîtes, à ce jour, ne se préoccupent d'Android que plusieurs mois, voire des années après avoir lancé. Pourquoi ? Parce que c'est sur iOS que tu peux établir le succès d'une boîte et après, une fois que c'est fait, tu portes. Donc, je pense que c'est intelligent de Microsoft d'offrir cette technologie. plus mieux ça marche et plus ce sera convaincant, mais ça laisse de toute façon Windows Phone comme le tout dernier en termes de plateforme à supporter. Et je ne vois pas comment ça accélérerait les choses. Cela dit, tu vois, pour une boîte comme Postmates ou une boîte comme Poshmark, qui ont maintenant des centaines de milliers d'installs, avoir cette possibilité, pourquoi pas ?
C'est un peu la poule et l'œuf, quoi. Toujours ce problème d'application. S'il n'y en a pas assez, la plateforme n'est pas assez intéressante. Et si la plateforme n'est pas assez intéressante, les gens ne veulent pas développer des applications pour. Là... Je vais laisser Kassim parler, qui va défendre ardemment et brillamment sa plateforme préférée.
Non, je voulais dire que d'abord que j'étais pas sûr aussi. Alors sur les critiques que je voulais faire au système, c'était plutôt sur l'ergonomie aussi. C'est-à-dire qu'une application BlackBerry par exemple avait déjà fait la même chose. Une application Android qui est portée comme ça sans travail dessus. Sur Windows Phone, bah forcément, on aura un design et une ergonomie qui sera différente de ce que les utilisateurs auxquels les utilisateurs sont habitués sur Windows Phone avec des applications Windows Phone.
Ouais, donc il y a toujours un petit peu de travail forcément qui est nécessaire.
D'autant que l'interface de Windows Phone était assez particulière.
C'est ça, pour une application comme Candy Crush, qui est un jeu qui a une interface spécifique, bah effectivement, ça peut peut-être fonctionner, mais pour une application qui utilise des éléments de l'interface du système et un style graphique du système, c'est peut-être moins direct comme traduction.
Après, pour répondre à ce que disait Jeff, je pense pas que, de toute façon, le but de Microsoft actuellement, c'est pas d'être la première plateforme en termes, dans l'esprit des développeurs. Ils savent pertinemment qu'ils ne seront pas du tout les premiers, que déjà, même Android avec ses parts de marché, avec près de 75 ou 80% de parts de marché dans pas mal de pays, n'arrive pas à être le premier store quand il s'agit des nouveautés ou des startups, comme disait Jeff. Donc Microsoft sait pertinemment qu'ils ne seront pas les premiers. L'idée, c'est de réduire au maximum le temps entre le moment où un jeu est un succès, par exemple, ou une application est un succès, et le moment où elle sera disponible sur le store, en attendant que des nouveaux clients arrivent, que le parc installé augmente, et en attendant que Windows 10 se mette en place pour cette histoire de 1 million d'appareils. Je pense que c'est plutôt là le plan.
Je crois qu'il y a effectivement beaucoup de vrai dans ce que tu dis, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée n'est pas de transformer du jour au lendemain Windows 10 mobile, Windows Phone 10, en plateforme de choix des développeurs. C'est certainement, ça va pas arriver, ils sont pas idiots, mais s'ils peuvent convaincre quelques dizaines, quelques centaines de développeurs parce que ça sera plus facile que ça ne l'était avant de d'amener leur application sur Windows Phone sur Windows Phone aussi, c'est déjà ça de pris, c'est déjà ça de gagné. Et je pense que c'est pas rien, vu l'importance des applications, c'est pas rien, et c'est une stratégie qui j'ai beaucoup entendu dans les analyses, c'est un peu la stratégie de la dernière chance. Et que si ça ne fonctionne pas, d'ici 2-3 ans, on pourrait imaginer Microsoft qui rachète Cyanogen, par exemple, la version d'Android qui a du succès, la version différente d'Android, forquée d'Android qui a du succès, pour carrément se mettre plus à fond sur Android. Mais on n'y est pas encore, et c'est à peu près ce qu'ils pouvaient faire de mieux pour essayer d'intéresser les développeurs, je crois, même si c'est vrai que tout le monde n'ira pas. On a aussi eu des informations sur le fait qu'ils vont intégrer le carrier billing. Et j'ai trouvé ça intéressant. Le carrier billing, c'est le fait de pouvoir facturer quelque chose à un utilisateur par l'opérateur de téléphonie mobile qui l'utilise. Donc, par exemple, on a sur le store une application qu'on télécharge gratuitement et puis un achat in-app de 1 euro. Et cet euro sera facturé sur notre facture de téléphone plutôt qu'une facture séparée. Et évidemment, pour nous, aux États-Unis, en Europe, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais je pense que pour certains utilisateurs dans des pays plus en voie de développement, qui d'ailleurs, chez qui Windows Phone fonctionne sans doute mieux que dans les pays occidentaux, ça peut avoir son intérêt. Là aussi, ils ont une approche globale qui, à force, chaque élément pris indépendamment ne sera pas forcément intéressant en lui-même, mais si on ajoute tous les éléments, on finit par se dire « Ah, peut-être que tout additionné, ça peut donner quelque chose. Le transfert d'applications avec les... Enfin, le portage d'applications facilitées en soi, c'est pas grand-chose, mais si on se dit qu'il y a un milliard de machines potentielles, évidemment, c'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a différents types de machines, mais un milliard de machines potentielles, ça peut être plus convaincant, etc. Si on se dit qu'on a plus de facilité à générer des achats et des paiements parce que le carrier billing est intégré, pourquoi pas, etc., etc. Donc... Moi, j'espère en tout cas que ça donnera quelque chose au final. Mais...
Ouais, les pauvres aussi avec tout ça. Et...
ils n'y arrivent pas, oui. C'est pour ça qu'on dit que c'est un peu la dernière chance.
Ah bah pour la partie mobile, ça, en tout cas, c'est clair. Ça fait depuis un moment maintenant, même si on compte depuis Windows Phone 7, ça fait bien 4 ans ou quelque chose comme ça, ou 5 ans, qu'ils essayent de développer leur plateforme mobile. Et, je pense que là, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre de perdre de l'argent.
Ouais, ouais. Bah là, ils ont le gros lancement, mais oui.
Surtout comme habituellement, on leur rappelle aussi qu'ils gagnent plus d'argent sur les brevets avec les fabricants de téléphones Android.
C'est vrai.
Donc voilà.
Oui, oui, oui. Non, c'est vrai qu'ils gagnent de l'argent effectivement sur Android. C'est une des grosses qualités de Microsoft. Ils savent trouver de l'argent partout. toujours pour les Windows Phone, on a eu une démo assez impressionnante, j'ai trouvé, de Continuum, c'est-à-dire cette fonctionnalité qui permet à votre OS de s'adapter à l'utilisation que vous avez de votre machine. Alors pour les tablettes, on le savait, c'était le fait qu'ils changent d'une interface plutôt touch à une interface un clavier quand on ajoutait un clavier à la tablette, ce genre de choses. Mais là, ils ont fait une démonstration pour Windows Phone où quand on branchait un écran d'ordinateur en HDMI, en connexion toute bête, il passait en mode double écran. C'est comme c'est le cœur de Windows, le grand écran de desktop qu'on ajoute, c'est juste un écran qu'on ajoute à l'ordinateur qu'est notre téléphone. Et là, on a donc deux écrans, l'écran du téléphone et l'écran, l'écran de desktop. Et on peut bien sûr connecter en Bluetooth un clavier et une souris. Et on a une interface qui est un petit peu plus mastoc que dans Windows 10 classique, mais qui ressemble beaucoup à Windows 10 classique et qui fonctionne pas mal du tout. Et je me suis pris à rêver de cette possibilité dont on parlait depuis longtemps. Et on sait que des développeurs comme ceux d'Ubuntu, par exemple, ont essayé ça avec Ubuntu Mobile. Mais le fait d'avoir, peut-être en déplacement, uniquement mon téléphone, et quand j'ai besoin de faire quelque chose sur ordinateur, je le branche sur un écran là où je suis, avec clavier et souris Bluetooth, et je peux travailler de manière un petit peu plus sérieuse que je ne pourrais le faire uniquement avec mon téléphone, et même de manière comparable à ce que je fais avec un desktop, parce que les applications qu'ils ont montrées, bien sûr, ils ont montré Office, c'était presque Office normal, quoi. C'était très impressionnant, j'ai trouvé.
Alors personnellement, je trouvais que c'était la meilleure démonstration qu'ils pouvaient faire du fait que leurs applications sont vraiment universelles, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment le même exécutable, le même binaire entre le mobile et le PC de bureau. Et donc c'est pour ça qu'en fait, quand on a son mobile comme ça relié à un écran externe, en fait, il va afficher l'interface qu'il aurait sur PC de bureau, vu que c'est la même fenêtre, la même taille de fenêtre, etc. Il charge le même code, parce que voilà, c'est le même code entre les deux. Après, j'ai un peu peur que la fonction en soi reste assez peu utilisée parce que c'est le genre de fonction un peu geek qui est toujours géniale sur le papier, mais en même temps les gens s'équipent pas forcément des bons accessoires et tout. Là où je voyais ça plutôt avec un plus grand intérêt, c'était toujours dans les pays émergents, puisqu'on en parle, où certains pays émergents il y a plus de téléphones mobiles que d'ordinateurs PC fixes ou portables, parce que ces pays-là ont fait un leapfrog de technologie, quoi. Et dans ces pays-là, on pourrait imaginer que les téléphones portables puissent faire unité centrale grâce à ce mode-là, au moins pour des tâches de navigation sur Internet, de Office, justement.
Ouais, moi c'est ce qui m'a frappé aussi. C'est évidemment pour nous ça semble un petit peu gadget et je suis sûr que Jeff a roulé des yeux quand on a parlé de cette fonctionnalité. Mais pour des pays où l'unique accès ou le principal accès à l'informatique et à Internet est le téléphone mobile, bah, s'il suffit de brancher un écran dessus, ça peut effectivement être plus qu'utile. Moi, je trouve qu'il y a un vrai intérêt de la chose, quoi.
Tu peux mettre ton téléphone iOS sur ton Apple TV depuis que Apple Display fonctionne, donc c'est pas nouveau, hein.
Oh, mais c'est pas la même chose quand même. Si tu branches, déjà, il faut une télévision, il faut une Apple TV, et ensuite, tu as uniquement l'application telle qu'elle est sur iOS sur ton Apple TV. Là, on parle d'un écran d'ordinateur classique avec câble HDMI, et on a une, c'est pas l'interface du téléphone qui est simplement en mirroring ou affiché sur l'écran. C'est une interface très très proche de ce qu'on a avec Windows 10 classique pour les applications. Donc c'est quelque chose quand même de beaucoup plus, pour une question de productivité, on est beaucoup plus proche de ce qu'on peut faire avec entre guillemets un vrai ordinateur que le fait de faire du mirroring d'app Apple TV, quoi.
Ouais, bof.
T'es pas convaincu.
Le mirroring existe déjà.
Non, je vois pas en quoi. Pardon, vas-y.
Non, je disais, le mirroring existe déjà sur Windows Phone avec Miracast. C'est pour moi. Enfin, le truc, c'est surtout le fait que l'application puisse s'adapter, sera pensée. Si c'est une bonne application universelle, comme le veut Windows 10, elle sera aussi pensée pour l'utilisation clavier-souris avec une interface clavier-souris. Comme si ton iPhone. Une fois relié à l'Apple TV, au lieu de charger le Pages de iOS, il utilisait le Pages de macOS, entre guillemets.
C'est hein, ça, c'est... voilà, exactement. Ouais.
Donc, l'interface...
Non, Jeff, toujours pas convaincu ?
Bah, je veux dire, c'est super pour les démos, mais qui est-ce qui va, dans la pratique, utiliser ça plutôt qu'utiliser un ordinateur dans un cadre de productivity, franchement, bof. Ouais.
Je trouve que la technologie est assez prometteuse pour le futur parce que dans le sens où les téléphones deviennent de plus en plus puissants et que du coup, enfin à terme, on aura peut-être enfin la vraie puissance. Enfin, bien sûr, les PC aussi augmentent en puissance en parallèle. Mais par exemple là, pour le moment, ils ont fait la démonstration. Il n'y avait qu'une seule application qui tournait à la fois. Bon, imaginons que avec un vrai processeur dans quelques années, le système puisse faire tourner plusieurs applications en même temps à l'écran en mode fenêtré. Voilà,
c'est ce qu'on peut espérer, c'est sûr, et on n'est pas si loin que ça.
Et ils ont montré une machine qui était intéressante parce qu'ils ont fait une session après dédiée à ce service, à cette technologie, et ils ont présenté un accessoire. Bon, c'est un prototype qui n'est pas vraiment annoncé, mais ils ont montré en fait un PC portable dont on aurait retiré la carte mère, le processeur, la RAM, le disque dur, tout quoi. En fait, il reste que l'écran et le clavier et le touchpad et la batterie. Et en fait, c'est justement parce que cet accessoire est justement fait parce que c'est le téléphone qui va faire tout le calcul et le stockage. Et en fait, c'est juste une coque vide, finalement. L'ordinateur portable est juste une coque vide accessoire du téléphone pour cette fonction-là, quoi.
Et là, tous les fans d'Asus souviennent de l'Asus Pad Phone et de son successeur qui faisait les trois machines en même temps. Qui était un petit peu ça, mais c'est sûr que la technologie n'était pas encore... la technologie Windows est prévue pour ça à la base, contrairement à Android. Donc, ça fonctionne, je pense, un petit peu mieux sous Windows 10. Le truc, c'est qu'on l'a su ensuite. Malheureusement, Windows Phone 10, Windows 10 pour téléphone, ne sera pas disponible au lancement de Windows 10 et... risque de ne pas les machines actuelles risquent de ne pas faire fonctionner cette fonctionnalité spécifique. Donc on verra comment ça se passe. Peut-être que ça marchera en mirroring, mais on ne sait pas exactement. Donc il y a quand même un petit peu d'incertitude là-dessus.
Ouais, en fait c'est parce que le processeur doit pour prendre en compte, pour une fois il se la joue un peu Apple, c'est-à-dire que en fait le processeur doit ils veulent absolument que ça marche du premier coup. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'ils se la jouent Apple, c'est qu'ils veulent absolument que ça marche, que ce soit clair et carré. Et en fait, la fonction demande à ce que le processeur puisse contrôler l'écran du téléphone, parce qu'il est toujours possible de, par exemple, prendre un appel téléphonique ou répondre à un SMS quand le téléphone est relié à l'écran externe. Et donc, ils veulent que le processeur soit assez puissant pour gérer le téléphone et l'écran externe en même temps sur deux écrans différents.
Bien sûr, oui.
Et donc, ils veulent bien mettre au carré les spécifications. Et justement, ils veulent pas cette histoire de mirroring, par exemple. Ça aurait pu être permis, mais en fait, dans les API de Windows 10, on peut, une application peut utiliser les deux écrans en même temps. Par exemple, PowerPoint peut afficher la présentation sur l'écran externe et les notes de la présentation sur le téléphone.
Donc, et là, ça doit pas. Ouais, d'accord.
Voilà, ça doit utiliser les deux les écrans à la fois. Donc, ils veulent être sûrs. Voilà.
Ok, bon, bah, on verra si Continuum plaît à certains utilisateurs. D'ailleurs, je serais curieux si parmi les auditeurs, il y en a qui seraient intéressés par cette fonctionnalité d'avoir. Moi, je ne pense pas que ça va remplacer l'ordinateur à la base, mais peut-être que ça pourrait être intéressant quand on est en voyage pour avoir un truc qui fonctionne un petit peu mieux que le simple téléphone tout seul, quoi. Donc, si cette fonctionnalité Continuum dans ce cadre-là vous intéresse, venez nous le dire sur frenchspin.fr dans les notes de l'émission. Très rapidement, bon, le nouveau
c'est ce que les gens en fait utilisaient un iPad avec un écran, avec un clavier. En termes de use case, et en fait maintenant beaucoup de gens ont droppé l'iPad pour un iPhone 6 Plus, donc grand écran, facilité de taper, et en gros t'as plus besoin de grand chose d'autre, quoi.
Bah, je suis pas sûr que ça soit encore une fois comparable, parce que le changement d'interface à mon sens change tout. Si je pouvais brancher mon téléphone et avoir l'application comme elle est sous Windows, je pense que je sais pas en fait. Ça me paraît quand même gadget quand j'y réfléchis avec le cœur, mais quand j'y réfléchis avec la tête, je me dis bah peut-être que ça pourrait. Je sais pas. Faudrait la voir en fait pour.
Faut aussi penser juste parce que là pour le moment ça demanderait beaucoup d'accessoires et tout. Faut aussi penser que dans le futur avec l'USB Type C, donc on a vu l'utilisation sur le MacBook d'Apple, où il y a l'équivalent aussi en Wi-Fi, c'est le WiGig. C'est des câbles qui maintenant ou des technologies Wi-Fi qui permettent de faire passer un peu tous les protocoles sans trop d'accessoires supplémentaires. Donc je pense que pour une fois il pourrait y avoir de la bonne chose du côté des accessoires. Ouais.
Peut-être, oui, on aurait les appareils qu'on a de toute façon pour notre PC, on les branche sur le téléphone. Bon, on verra. Rapidement, Microsoft Edge, c'est le nom du nouveau navigateur. On a enfin eu le nom, et c'est important qu'il commence par un E, parce que l'icône sera un E comme celle d'Explorer. Donc, vous n'aurez pas à dire à votre grand-mère autre chose que ce que vous lui avez toujours dit, c'est-à-dire clique sur le E pour aller sur Internet. Il y avait des fonctions intéressantes sur le lock screen, sur l'écran de verrouillage de Windows, avec des suggestions de nouveaux fonds d'écran et des suggestions d'applications à utiliser en fonction de votre utilisation, des suggestions pour Cortana par exemple. Donc rendre utile cet écran de veille, cet écran de verrouillage sous Windows 10 classique, hein, sous Windows 10 desktop ou laptop. J'ai trouvé ça plutôt malin. Il faut voir ensuite si les gens ne... Mais parce que c'est très difficile de faire remonter à la surface ces informations sans déranger les gens. Et là, sur l'écran de veille, je pense que ça peut être pas mal fouiller un petit peu plus à l'avenir. Et surtout, la chose qui a fait un petit peu sensation, c'était une nouvelle démo du HoloLens, et on va conclure rapidement sur Microsoft Build avec ça. Le HoloLens, donc cette application, c'est ce matériel de réalité augmentée qui a eu une nouvelle démonstration qui était un petit peu plus convaincante que j'ai trouvé que la précédente, qui moi me paraissait trop belle pour être vraie. Et là, ce qui m'a marqué, c'est qu'on avait aucune latence, c'est-à-dire que dès qu'on bougeait la caméra, les images qui étaient créées artificiellement dans le décor, comme les tableaux au mur ou ce genre de choses, suivaient au millimètre près. Mais par contre, ce que tout le monde a dit, tous ceux qui ont testé ont dit, c'est que le champ de vision était extrêmement réduit. On avait vraiment l'impression d'avoir une fenêtre sur les lunettes qu'on avait devant les yeux, une petite fenêtre à travers laquelle il fallait regarder pour pouvoir voir les éléments ajoutés par la réalité augmentée. Et ça, c'était un petit peu décevant. Il faut espérer que le matériel final sera un petit peu plus convaincant. Enfin, aura un angle de vision plus large. Mais bon, au niveau de la latence, moi, j'étais vraiment impressionné par le fait qu'il n'y ait pas du tout de latence. Kassim, toi, c'est quelque chose en quoi tu crois, ce HoloLens ?
J'ai toujours un peu de mal Alors, enfin, bref. Donc, il y a, donc oui, il y a Corben. Qui, je voulais dire d'abord qu'il y avait Corben qui avait fait un test, qui avait fait la prise en main justement dont tu parles, parce qu'il était à la build, et donc il parle justement de ce problème de champ de vision et la prise en main était, enfin, c'est plutôt un bon test. Je pense que voilà, on peut conseiller d'aller lire. Pour justement, ce, pas, d'habitude les tests étaient en anglais, donc là c'est un des premiers tests en français. Donc
Corben.info, ouais.
Et donc, oui, bah, au LEN, j'ai toujours un peu du mal à y croire pour pas mal de raisons. Alors, déjà, oui, le prototype pour l'instant fonctionne bien en termes de stabilité et tout. J'ai toujours peur des prototypes.
Et puis là, il n'y avait plus tous les câbles qui dépassaient, c'était un truc vraiment individuel, indépendant et tout.
Il n'y avait pas la batterie dans le dos, etc. Mais j'ai toujours peur des prototypes chez Microsoft depuis qu'ils ont, vous avez présenté Project Natal à l'E3, qui était l'ancêtre de Kinect. Et en fait, donc le Project Natal était très performant, et en fait, Kinect, une fois en produit commercialisé, était beaucoup moins performant parce que justement, c'était un produit commercialisé, qu'ils avaient besoin d'atteindre un niveau de prix et qu'ils avaient dû réduire les performances.
Ils ont d'ailleurs dit que le HoloLens coûterait a priori au moins aussi cher qu'une Xbox One, ce qui est un sensiblement plus cher que ce qu'on peut imaginer pour les matériels de réalité virtuelle.
Oui, mais c'est parce qu'ils ont bien insisté sur le fait que HoloLens incluait un ordinateur. C'est justement pour
c'est
ça.
C'est un ordinateur indépendant qui a besoin d'être branché à rien. Oui.
Donc rien que la partie ordinateur, déjà, va forcément coûter à peu près dans les 400, facilement dans les 400 ou 500 dollars. Donc, c'est vrai, si en plus on rajoute les lunettes, etc. Mais voilà, donc j'ai toujours un peu du mal à y croire pour le moment en termes de succès. Et puis je veux le tester moi-même, quoi. puis je veux qu'il l'annonce, c'est en vrai, avec une date de sortie, un prix, etc.
Ça reste un peu.
Mais
un peu
les démos, oui, font envie, c'est sûr. J'ai envie de tester, j'ai envie de savoir. Et puis j'attends aussi les démonstrations. Ils en reparleront à l'E3. J'ai envie de démonstrations sur le jeu vidéo parce que j'ai un peu peur. La différence avec l'Oculus Rift, c'est qu'en fait, on est forcément bloqué dans le nombre de mètres carrés de son appartement. Vu qu'en gros, il faut faire avec le décor, quoi. Et donc, ils n'ont pas encore vraiment démontré de possibilité
d'aller au-delà, oui.
D'aller, voilà, d'utiliser pour du jeu vidéo, pour des vrais jeux, quoi. Donc, j'attends cette partie-là aussi.
Moi, je suis toujours pas convaincu pour l'utilisation grand public. Pour l'utilisation professionnelle, pourquoi pas, mais grand public, il n'y a rien qui m'a fait changer d'avis, quoi. Jeff, je ne sais pas si tu t'es intéressé à cette technologie HoloLens ou si tu as vu les nouvelles démos, mais ou si on passe directement à.
Faudrait qu'on parle un peu d'autres choses que Microsoft, ouais. Parce que ça fait quand même 45 minutes qu'on parle de Microsoft. C'est pas possible.
C'est vrai, bon, c'est vrai.
Non, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont deux sujets qu'on est en train de regarder, et donc on a besoin pour la partie réalité virtuelle de plus de vendeurs de lunettes. Donc c'est une bonne nouvelle que Microsoft se lance dessus. De toute façon. On en est au tout début de cette industrie. Et donc, est-ce que cette génération de lunettes ou la suivante sont vraiment la solution pour le marché de masse? On verra bien. Mais en tout cas, c'est bien qu'ils se lancent dedans.
Une dernière chose, j'ai quand même été méchant avec HoloLens. Ils ont quand même annoncé quand même plusieurs partenariats, notamment avec le logiciel Maya, donc qui est un logiciel professionnel d'imagerie. Ils ont annoncé quand même ça à plusieurs partenaires et j'ai l'impression quand même qu'il y a une bonne image de HoloLens et que les gens sont quand même assez intéressés. Un certain nombre de boîtes et de développeurs ont l'air assez intéressés par le produit. Donc, et ils ont l'air de bien
pour
travailler.
Pour des utilisations professionnelles, oui. Ça c'est sûr.
Et ils ont l'air de bien travailler leur produit. Ils ont l'air de bien penser le truc et de pas aller trop vite. Quoi. Ils font des démos régulièrement, ils présentent leur truc calmement.
Ouais. J'ai l'impression que c'est là, voilà. Il y avait des trucs intéressants pour tout ce qui est médical, par exemple. Il y avait des explorations du corps humain avec la possibilité de décomposer ça, squelette, muscles, organes, etc. Et de voir ça juste devant soi, effectivement, c'était impressionnant. Mais au-delà de ces choses-là...
Cette démo m'a fait penser au tableau périodique de l'iPad 1 en 2010.
Un petit peu, ouais, il y a un petit peu de ça, ouais.
C'est la démo trop cool du début des produits et que c'est tout le monde aura oublié un an après, quoi.
Bon, parlons un petit peu de Tesla et de, une fois encore, Elon Musk qui va changer le monde et sauver le monde avec sa technologie Powerwall. Alors Jeff, tu semblais être intéressé par la chose, tu veux nous en parler un petit peu ou je fais la présentation ?
Bah vas-y, puisque tu fais ça toujours très bien, et d'accord, au moins c'est en français plutôt que du franglais, mais après je vais bien commenter.
Alors en fait, on sait que Elon Musk, qui développe les voitures Tesla, c'est le propriétaire millionnaire qui veut révolutionner...
Milliardaire.
Milliardaire, d'accord. qui veut... il est milliardaire ? Je pensais qu'il avait quelque chose comme 200 ou 300 millions, mais...
En plus, le Musk n'arrête pas de donner son salaire à chaque fois.
D'accord.
Non, je pense qu'il est facilement dans les... Ne serait-ce que par ses parts dans SpaceX, SolarCity et Tesla, je pense que le Gus... en tout cas, en termes
maintenant,
de...
ça va, quoi.
De stock, ça va, quoi.
D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, il a développé énormément de choses pour ses voitures électriques Tesla. Et l'une des technologies qu'il a développées, que ses équipes ont développées, c'est des technologies de batterie un petit peu différentes et innovantes. Et en l'occurrence, il a... Ah tiens, Kassim nous dit que la fortune est estimée à 7,7 milliards de dollars. Donc oui, ça va.
Mais donc, Forbes le donne à 12 milliards, sorry.
D'accord. Mais donc, il l'utilise pour faire le bien, et en l'occurrence, il veut utiliser cette technologie de batterie pour révolutionner la consommation d'énergie dans l'énergie domestique, en fait. Et ce qu'il a présenté, c'est un produit qui s'appelle le Powerwall, qui est en fait une série de batteries arrangées un petit peu, ça fait une épaisseur de, allez, une vingtaine de centimètres, et ça prend la place sur un mur d'un frigo, on va dire, à peu près quelque chose comme ça, et ça stocke l'énergie que vous avez, en fait, pour des moments où vous pouvez vous en resservir de manière à ce que ça soit plus intéressant au niveau financier, pour que vous la stockiez quand elle est moins chère et que vous l'utilisiez depuis ces batteries quand elle est trop chère sur le réseau. Et bien sûr, là où ça devient extrêmement intéressant, c'est quand c'est couplé à des panneaux solaires, puisque on le sait, le gros problème des panneaux solaires, c'est le cas dans les pays développés, mais aussi et peut-être surtout dans des pays en voie de développement, c'est que les panneaux solaires fonctionnent très bien quand il y a du soleil. Évidemment, quand il n'y a pas de soleil, eh ben, ça ne marche pas du tout. Donc, le fait d'avoir des batteries pour stocker tout ça, ça pourrait permettre de lisser, d'uniformiser la consommation d'énergie. Et selon les chiffres qu'il donne, il serait possible de, aux États-Unis, de manière relativement envisageable, ça reste des gros chiffres, mais tout de même, de libérer complètement les États-Unis du charbon. Ce qui est un gros problème aux États-Unis, et les énergies évidemment non renouvelables sont un gros problème aux États-Unis et ailleurs. Là, ça pourrait aider selon lui. C'est pas trop beau pour être vrai quand même, Jeff, le fait de simplement acheter des batteries et puis voilà, tout va bien ?
Bah, c'est le gros problème aujourd'hui d'avoir une installation solaire sur ta maison, c'est-à-dire que tu vas avoir la production pendant la journée, tu vas utiliser la puissance pour faire tourner tes machines, ta maison, etc. Mais souvent, les gros besoins sont la nuit. Et la nuit, typiquement, t'as pas de soleil. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer sur le réseau en tant que producteur de l'électricité. Et donc, en gros, si tu vas pas utiliser de l'électricité, tu vas la produire. Et quand tu produis de l'électricité et que tu l'envoies sur la grid, sur le réseau, tu vas être payé au niveau distribution, taux de distribution. C'est-à-dire que, par exemple, à Palo Alto, je vais payer 15 cents du kilowattheure quand je le consomme, mais je vais te payer 4 cents du kilowattheure si jamais j'en fournis. Et donc, tu as vraiment une bascule, un manque de balance au niveau, une imbalance.
Un déséquilibre.
Thank you. un déséquilibre entre le wholesale et le retail, donc la partie distribution, la partie commerce, la partie retail. Et donc avoir une batterie, c'est vraiment la solution la plus intéressante parce que en gros, c'est tu charges ta batterie pendant la journée, tu gères ta consommation pendant la journée et pendant la nuit, tu vides la batterie. C'est un peu trop beau pour être vrai, mais si tu lis en fait les premiers articles sur la batterie Tesla, ça te dit qu'en gros tu peux grosso modo faire vivre une maison qui va bouffer à peu près un kilowattheure. Donc tu vas pas gérer l'ensemble des besoins de la maison, mais il y a une chance que tu l'utilises pour une grosse partie de tes besoins pendant la nuit. Donc nous, on a l'avantage à Palo Alto d'avoir une électricité extrêmement peu chère et en plus 100% renouvelable, à base d'énergie renouvelable. Et donc, étant donné nos propres économiques, ça ne vaut pas le coup pour nous de mettre une batterie quand on est palo-altin. Mais si on habite dans la ville d'à côté qui paye son électricité 4 fois plus cher, ça commence à être valable.
Et il y a beaucoup de gens qui ont des panneaux solaires rien qu'en Californie, par exemple ?
J'ai pas les chiffres en termes de pénétration, mais effectivement, sur les 3-4 dernières années, il y a eu un gros boom du solaire en termes de déploiement, en termes d'installation, parce que les prix, à la fois, bon, il se trouve que les prix du pétrole ont été en chute libre depuis plus d'un an, donc les incentives sont moins élevés, mais pendant la crise pétrolière où tu avais tu avais une barrique de pétrole pour plus de $100, ça commençait à coûter très cher. Et effectivement, tu avais beaucoup de gens qui se disaient, mais on a tellement de soleil, surtout dans la vallée, ça vaut le coup. Et nous, on a fait des études pour voir si ça valait le coup, et on s'est rendu compte que, parce que Palo Alto a cette approche de l'énergie propre et directe, qui fait que, en gros, ça coûte quasiment rien pour nous d'utiliser l'électricité, ça valait pas le coup, mais si on habitait juste à côté, donc la ville d'à côté, Los Altos ou Menlo Park, ce serait quelque chose qu'on garderait tout à fait, oui.
Et en l'occurrence, cet appareil coûte $3000, donc c'est même pas une somme complètement folle pour la version domestique. Et je pense qu'effectivement, bon, d'une part, c'est une version 1, et comme pour la Tesla et comme pour toutes ces idées un petit peu folles d'Elon Musk, il faut voir un petit peu plus loin et essayer de rêver un petit peu, mais... C'est intéressant pour l'Occident, je pense que c'est peut-être encore plus intéressant pour si on regarde un petit peu plus au Sud. Et l'idée d'avoir une indépendance énergétique, ça met cette idée à portée d'à peu près n'importe qui. Donc, n'importe qui, si on a les moyens de se payer ce type de matériel.
Là où j'avais un problème, moi, un peu... j'ai regardé sa présentation, qui est d'ailleurs une très bonne présentation, qui n'était pas très longue et tout. Enfin, il est allé droit au but et tout. Et il a plutôt bien fait sa
présentation. Contrairement
à nous. Oui. mais là où je n'ai pas été très convaincu, c'est qu'en fait, du coup, donc, sa solution, c'est panneaux solaires et éoliennes et batteries. Sauf que... il ne parle pas du tout de la production, justement, des batteries ou des panneaux solaires, ni de leur impact sur l'environnement, ni vraiment de comment... Enfin, en gros, sa démonstration, c'était « c'est merveilleux, on va produire 15 milliards de batteries dans le monde, et puis hop, c'est bon, tout le monde il sera sur batterie infinie. » Et donc, c'est merveilleux. Sauf que, il parlait pas trop de la production des batteries, de leur recyclage, etc., ou même des matières premières nécessaires pour faire les batteries, tout simplement. Alors que, bon, c'est... On a une certaine industrie qui utilise quand même un petit peu les batteries déjà et qui a déjà des problèmes.
C'est sûr. Mais je crois que l'idée, c'est que même si effectivement les batteries consomment certains éléments, ça sera moins grave que le ça sera peut-être pas super bon d'avoir des batteries partout pour l'environnement, mais au moins ça risque d'endiguer le réchauffement climatique, ce qui est sa préoccupation première dans cette présentation. Donc
C'est vrai qu'on a ça règle un problème, on ne sait pas si ça en crée pas un autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'idée de ce que ça veut dire d'avoir des millions et des millions de batteries de ce type, donc qui sont des petites batteries qui sont mises en ligne par centaines. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de dégradation ? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un autre problème pour nos enfants ou les enfants de nos enfants ?
Elles sont censées durer une dizaine d'années, donc c'est pas long du tout, quoi.
À l'échelle humaine, tout à fait. Bon, cela dit, clairement, le stockage d'énergie a été un énorme problème qui a conduit en fait à créer des systèmes de génération électrique où en gros tu produis, même si t'as pas forcément besoin de tout, de manière à ce que tu puisses gérer des pics de consommation. Et le fait que tu commences à avoir au niveau domestique la capacité de stocker un petit peu de cette énergie pour avoir à peu près 8 à 10 heures d'autonomie pour ta maison, je veux dire, pour moi, on a quasiment jamais des pannes de courant à Palo Alto, mais je peux te dire qu'il y a 3-4 mois, on a eu une panne, et t'es comme un con. parce que t'as pas d'électricité pendant 10 heures, et bah,
et tu peux rien dire faire. Que,
et tu peux rien faire. Et à 3000, donc c'est 3500 $ pour la, enfin, 3000-3500 $ pour la batterie, plus, le convertisseur AC-DC, donc courant alternatif, courant continu à 2000 $, plus l'installation. Donc, en gros, ça va te coûter, allez, on va dire 10 000 $. Je veux dire, pour 10 000 $ où tu peux avoir un stockage de ton énergie électrique plus la garantie d'avoir un backup si jamais quelque chose se passe, surtout chez nous où on a quand même des tremblements de terre, c'est quelque chose qui, dans l'absolu, a tout à fait du sens.
Bon, bah on verra, là encore, effectivement, on n'est qu'au début de cette technologie, on verra si c'est un mirage ou si ça sert vraiment, mais en tout cas, c'est quelque chose d'enthousiasmant, quoi.
Yep.
Une autre chose qui, à vrai dire, n'est pas hyper enthousiasmante, à mon sens, mais pas non plus si décevante, c'est l'Apple Watch, que j'ai utilisé pendant une dizaine de jours, depuis que je l'ai reçu, hein, le jour de la sortie. Jeff, toi, tu disais que tu n'étais pas intéressé, t'en as pris une finalement ou pas ?
Nope.
Non.
Et,
okay.
Et après avoir lu les commentaires, donc des commentateurs, des journalistes, juste avant que la montre soit disponible, et surtout les réflexions de mes copains, donc les gens que je connais très bien, qui sont typiquement comme moi des Apple fanboys, où l'extrême, ça a été mon copain David Hornick, qui est un VC aussi, qui en gros a revendu sa montre sous 24 heures. parce qu'il a considéré que c'était lent, que c'était moche, que c'était, enfin, pas la montre moche, mais les applications étaient moches, qu'elles n'étaient pas vraiment utiles et que c'était tellement lent que ça l'énervait. Si tu veux, je suis très très satisfait d'avoir passé sur la première génération, et le jour où je commencerai à avoir des commentaires positifs de mes copains, et en gros tous les gens disent en gros ouais c'est lent, c'est sympa, c'est gros, il y a trop d'applications, j'ai pas trouvé la killer app qui fait que je vais utiliser ma montre tous les jours. Et c'est un peu comme quand on a utilisé la première génération de Google Glasses. En gros, on a tous porté ça pendant une semaine, après on les a rangés, on ne les a jamais sortis du placard.
Bah, c'est un peu, j'irai pas jusque-là, mais c'est un petit peu mon sentiment aussi. Kassim, toi, j'imagine que tu as un Microsoft Band et que tu bannis l'Apple Watch de ta maison.
Bah, en fait, je suis. Enfin, déjà, j'ai trouvé que ça marche avec mes téléphones. Or, j'ai un appareil Android et un appareil Windows Phone. Donc, bon.
Donc,
oui,
non.
Et, voilà. Mais même moi, après, je suis plus dans la team Pebble. Enfin, j'ai un Microsoft Band, mais je suis plus dans la team
Pebble,
autonomie,
ouais,
et multiplateforme, etc.
Ah, bon, je vais en parler rapidement, mais on va en parler plus longuement dans Upload, et surtout on a fait une longue vidéo découverte sur nowtech.tv avec Jérôme Kainborg, une vidéo d'1h20 où on la passe sous toutes les coutures. Donc si vous voulez tout savoir sur l'Apple Watch et sur l'expérience de vie avec une Apple Watch, je vous recommande d'aller sur nowtech.tv ou sur sa chaîne sur YouTube. Mais d'une manière générale, je rejoins un petit peu l'avis de la plupart des gens qui l'ont utilisé, en ce sens que je lui ai pas vraiment trouvé d'utilité, malheureusement. C'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je l'aime bien, je suis assez indifférent par rapport à ce produit. Franchement, hein, je suis très neutre, c'est vraiment pas que je l'aime pas, c'est juste qu'elle est là. Elle est sur mon poignet, y a quelques trucs qui sont pas mal, genre elle compte mon activité, ce qui est sympa, elle a l'horaire, comme je le disais dans l'épisode précédent, elle a l'horaire à différents fuseaux horaires, donc c'est pas mal, elle a la température extérieure très facilement accessible, la date, bon bah c'est des trucs de montre, mais il n'y a pas d'application vraiment convaincante, les jeux sont une catastrophe, ça n'a aucun intérêt. Il y a des trucs auxquels je m'attendais pas, comme par exemple le fait que tout simplement le fait de lever son poignet pendant plus de 15 secondes, eh ben ça commence à devenir fatigant. Enfin, on peut pas avoir une application qui nécessite d'être utilisée pendant plus de 15 ou 20 secondes simplement parce que on peut pas tenir son poignet pendant aussi longtemps levé. Donc c'est tout bête, hein, mais ça conditionne l'utilisation du truc. Il y a des trucs qui m'ont surpris de manière un petit peu plus, ça m'a plus surpris de manière plus agréable. Certaines fonctionnalités qui marchent bien, comme Siri sur le poignet, le fait que au final, ça ne me dérange pas du tout de la recharger tous les jours parce que je l'enlève de toute façon. Donc, je la pose sur la table de nuit. Il y a le chargeur qui est là. Bon, bah voilà, il est là et c'est tout. Je l'ai même prise chez mes parents. Je ne l'ai pas rechargée du week-end. Enfin, je l'ai mise en mode économie d'énergie pendant la nuit et elle m'a tenu vraiment les deux jours complets. Je ne l'ai pas utilisée beaucoup, mais tout de même. Donc, il y a des bonnes surprises, il y a des mauvaises surprises, mais au final, je suis très, très neutre. Je ne suis pas convaincu, quoi. Je suis simplement... Je la garde au poignet encore, mais pour combien de temps, je ne sais pas. C'est exactement ce que j'en pensais avant de l'avoir, au final. Peut-être un petit peu plus positif, parce que le fait que ça fasse capteur d'activité, c'est sympathique. Mais il n'y a pas suffisamment d'utilisation positive pour me faire penser, pour me la faire aimer, en fait. Ce qui est quand même... Voilà, pour un objet comme ça qui est un petit peu cher ou même pour... Je me dis, par exemple, je ne suis pas certain qu'une Pebble aurait d'autres fonctionnalités qui me plairaient plus. Et l'autonomie ne changeant pas grand-chose, je ne suis pas convaincu sur les smartwatches en général et l'Apple Watch n'a pas changé ça.
Ouais, je pense quand même que le fait que tu doives recharger ta montre tous les jours, t'es, en gros, il semblerait que ça dure au moins toute la journée, ce qui est positif, c'était même pas évident au début.
Largement.
Ça, c'est un peu lourd, quoi. Je veux dire, déjà, le fait de recharger mon device Fitbit, le Charge & Char, toutes les semaines, déjà, ça, je trouve ça lourdingue. Donc,
mais oui, mais ta montre, tu l'enlèves quand tu dors. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas, et je la pose sur la table de nuit. Donc là, je la pose sur son chargeur, ça change pas grand-chose, vraiment.
Bah, le Charge & Char, je l'utilise pour regarder mon cycle de sommeil.
Ouais, donc, pareil, ça veut dire que...
Ah oui, bah oui, mais moi, la montre, je veux pas la garder au poignet, tu vois.
Et donc, y a ça. Le fait que, c'est ce que tu dis, c'est t'as plein d'applications, c'est utile, mais bon, il n'y a rien qui fait que tu te dis « Oh, grâce à la montre, je fais un truc que je ne pouvais pas faire autrement. » En fait, ouais. la seule chose que m'a mentionné une de mes copines, c'est de dire c'est la killer app, c'est « Je ne manque jamais un appel de la nounou parce que ça fait biper, ça fait buzzer, ça fait trembler ma montre. Parce que des fois... j'ai mon téléphone à l'envers ou il est dans mon sac. Et là, clairement, grâce à la montre, je ne manque jamais l'appel de la nounou. Bon, voilà.
Donc, ouais, j'ai le même avis pour la Microsoft Band. C'est la fonction qui me sert le plus, c'est les notifications. Donc, le fait de vibrer quand il y a une notification et le réveil, du coup, aussi, qui vibre mon poignet. Et ça marche beaucoup mieux qu'une sonnerie.
Ouais, ouais. Donc, mais est-ce que ça... Enfin, je sais pas, moi en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les smartwatches et qui les aiment déjà, mais je crois que les gens qui n'aimaient pas déjà ça vont pas vraiment être convaincus, quoi.
J'ai juste deux questions sur l'utilisation. Déjà, est-ce que finalement... Enfin, en fait, c'est deux fois la même question, c'est l'interface utilisateur et les interactions. Est-ce que la roulette, déjà... Moi, j'avais un peu peur que la roulette soit pas très pratique et soit une fausse bonne idée, finalement, parce que déjà, ça dépend du bras sur lequel tu l'as mis. Et puis aussi en termes de juste l'interface en général, le seul menu que j'ai vu, c'est ce sorte de nuage d'applications, et j'étais pas très convaincu. Enfin, je trouvais pas simple comme les produits Apple d'habitude.
Non, l'interface est pas mal, franchement. Ça prend quelques jours pour s'y habituer, mais au final, elle fonctionne. Tu as d'en haut, tu swipes vers le bas, tu as les notifications. Du bas, tu swipes vers le haut, tu as ce qu'ils appellent les coups d'œil, qui sont des sortes de widgets Android, en fait. C'est des widgets, tout bêtement, hein, c'est ces coups d'œil, qui vont te donner des informations rapides sur ton calendrier, sur bon, il y a quelques trucs comme ça. Et voilà, et puis sur la montre, quand tu appuies sur l'élément que tu veux, bah, ça peut t'ouvrir l'application que tu veux, comme le tracker d'activité, le calendrier, etc. Donc tu t'y habitues. Et la Digital Crown fonctionne pas mal. Mais même les trucs de communication, genre les petits dessins que tu peux envoyer, les petits taps avec le Taptic Engine qui est qu'un vibreur tout bête, en fait, hein, ça sert. Peut-être que dans quelques mois, les développeurs auront trouvé des applications incroyables pour cette montre. Aujourd'hui, même si l'interface fonctionne, la qualité de fabrication est super bonne. Moi, je la trouve super jolie. Hein. Même la version sport, j'ai été surpris. Elle est vraiment belle. C'est de la bonne qualité. C'est un bel objet. Mais
Et est-ce qu'il y a beaucoup d'applications aussi disponibles? Enfin, est-ce que les développeurs ont...
Pas mal, mais elles servent à rien pour le moment. En même temps, tu sais, ils avaient pas la montre, donc ils ont commencé à la découvrir il y a 10 jours. Donc forcément qu'il n'y a pas d'applications qui servent à quelque chose. Mais non, aujourd'hui, il y en a. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé qui servent à quoi que ce soit, quoi. Les notifications, mais bon, c'est pas suffisant pour me convaincre. Bon, bah écoutez, après une grosse partie Microsoft, Powerwall et Apple Watch, on va passer à notre partie news et rumeurs, mais non sans faire une petite pause. Est-ce que, Jeff, tu as le temps de rester avec nous pour parler un peu de Periscope, ou est-ce qu'on te laisse partir maintenant ?
Bah on peut parler de Periscope, et puis après je pars, parce que là j'ai encore il me reste 2 minutes.
D'accord. Bah écoute, parlons de Periscope tout de suite et puis je ferai la petite pause après. On est déjà dans les news et rumeurs. Et en fait, ce qui s'est passé, Periscope, on vous en parlait il y a quelques semaines déjà, quelques mois. C'est cette application qui permet de faire du streaming depuis votre téléphone mobile très facilement et qui a été rachetée par Twitter, donc qui marche en tandem avec Twitter. On avait parlé de Meerkat, qui est une application concurrente. Mais là, Periscope a fait pas mal de bruit parce qu'il y avait un match de boxe hyper important, le match du siècle selon certains. Moi, je m'y connais pas beaucoup en boxe, donc je l'ai découvert avec l'histoire sur Periscope. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces matchs coûtent extrêmement cher à voir. Ça coûte une centaine de dollars sur HBO ou Showtime ou l'un des deux aux États-Unis. Ça coûte très cher d'y aller. Et en fait, avec Periscope, il y a des dizaines ou des centaines de personnes qui ont streamé la chose sur Periscope. Et au fur et à mesure que les flux se faisaient fermer sur Periscope, il y en avait d'autres qui revenaient. Donc, il y avait plein de gens sur Twitter qui disaient ce week-end qu'ils ont regardé le match sur Periscope en piraté, finalement. Et ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit parce que c'est une utilisation qu'on n'imaginait pas de Periscope et qui est évidemment très embarrassante pour Twitter qui, entre parenthèses, avait un deal avec HBO qui a été filmé dans les coulisses du match avec Periscope pour montrer les coulisses du match. Donc, ils ont promu l'outil qui servait aussi à pirater le match. T'as suivi ce truc, toi, Jeff ? Ça a fait beaucoup de bruit dans la vallée, Periscope ?
Bah, donc, deux ou trois informations en contexte. Donc, on a effectivement le duel Periscope-Meerkat. Periscope qui a été racheté par Twitter avant son lancement, mais avec des fondateurs qui sont vraiment très très bien. Meerkat qui est en gros un hack d'une boîte israélienne qui faisait autre chose et qui a découvert que faire ça, ça pouvait effectivement générer une croissance virale, et donc ils se sont lancés dessus. Et en gros, ça a été le showdown à Southwest, la grosse conférence internet au Texas il y a quelques semaines. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est Meerkat s'est lancé, c'est devenu le phénomène de South By, et après Periscope s'est lancé en tant qu'acquisition de Twitter, et en gros, Meerkat a commencé à descendre en termes de trafic, etc. Bon, donc il y a eu c'est le contexte dans lequel on se trouve. Et donc le match de boxe auquel tu fais référence, Mayweather contre je sais plus comment il s'appelait l'autre.
c'était
Paquinho, lui. C'était donc un match, donc le match qui devait générer à peu près 400 millions de dollars de revenus. C'est le match ou l'événement qui coûtait le plus cher à acheter sur ta télé. Donc si tu faisais une souscription au match, ça coûtait 90 ou 100 dollars sur Comcast, donc c'était un prix très important. Si tu voulais retransmettre le match dans un bar, c'était genre 2500 ou 5000 dollars minimum. Donc ça voulait dire que les gens qui voulaient retransmettre le match faisaient payer en gros un ticket d'entrée de 25 ou 50 dollars aux gens qui voulaient venir. Et donc il y avait vraiment un contexte où le piratage allait se passer, d'accord ? Parce que ça coûtait tellement cher. C'était complètement interdit de filmer le match si tu étais dans l'arène. Si jamais quelqu'un te prenait en train de filmer, tu te faisais confisquer ton téléphone et tu te faisais virer de l'arène. Et donc, les promoteurs du match avaient été très clairs que, un, ils essaieraient de travailler avec les deux plateformes, donc Meerkat et Periscope, pour qu'ils coupent les flux aussi vite que possible, et qu'il y aurait des répercussions légales auprès des gens qui ont fait du streaming illégal. Et donc ça, Ça, c'est ce qu'on va voir. Parce que si on se rappelle des beaux temps du download illégal de musique où Napster avait été attaqué pour des dizaines de milliards de dollars par le monde de la musique, on va voir si les promoteurs vont se mettre à aller chercher les gens qui ont effectivement fait du Periscope illégal et vont les attaquer en disant « à cause de vous, on a perdu du revenu de pay-per-view, donc vous nous devez 1 million, 10 millions, 100 millions de dollars à cause de vous. » Voilà, boum. Et je peux te dire que, de manière à ce que, afin de montrer l'exemple, je ne serais pas étonné si ça se passe.
C'est sûr que c'est un gros problème pour les médias en général. Et Twitter, qui veut séduire les médias, à mon avis, ils ont intérêt à ce que les choses se passent bien, d'autant plus que Dick Costolo, le président de Twitter, a déclaré le 3 mai après le match « And the winner is Periscope ». Ce qui n'était pas forcément hyper habile de sa part, je pense. Mais oui, c'est intéressant. On se demandait à quoi allaient servir ces apps. Et ben voilà, maintenant on sait.
Le piratage. Après, et Twitter qui a perdu 32% en une semaine au niveau du marché du Nasdaq, ils n'ont pas besoin d'une attaque publique qui leur ferait payer une centaine de millions de dollars ou plus en dommages et intérêts.
Oui, c'est certain.
Mais est-ce que c'est vraiment considéré comme du piratage finalement? Parce que, enfin, il n'y a pas de création. Si c'était quelqu'un qui filmait sa télé, je pourrais comprendre, mais c'est
Les droits de retransmission sont.
Ah ben quand tu achètes le pay-per-view, tu t'engages spécifiquement à ne pas retransmettre le contenu, etc., etc. Et donc c'est clairement pour les gens qui, si tu veux, t'as deux choses. Un, la personne qui périscope, c'est effectivement un breach de droit, et celui qui laisse quelqu'un faire un périscope de sa télé, c'est un breach de contrat. Donc, étant donné que c'était pas un événement isolé, puisqu'à priori il y en avait des milliers, et ils étaient recréés aussi vite qu'ils étaient shut down, c'est clair qu'il y aura des répercussions, et je ne serais pas étonné du tout. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est très clair. Il va y avoir des procès auprès des gens qui se font choper. Je peux te dire que les gens qui se font choper seront mis au pilori en exemple, et ça va être des montants qui vont être cataclysmiques.
Et ce qu'on, à mon avis, ça va être marrant quand on va voir la Coupe du Monde de football, quand on va voir les Jeux Olympiques, tout ça, parce que tous ces événements sportifs sont organisés et les droits sont vendus très très cher aux chaînes qui veulent les retransmettre. Donc c'était le premier exemple, mais je pense que ça va se reproduire énormément de fois si Twitter ne règle pas le problème maintenant. Donc, ça va être intéressant à suivre, quoi.
Ouais, et puis le problème, c'est qu'à ce jour, tu signes pour Periscope de façon très très simple, parce qu'ils ne veulent pas avoir de blocage, de barrière à l'entrée, etc. Et clairement, ils vont devoir mettre des freins pour qu'ils ne se retrouvent pas de l'autre côté. Soit ils prennent le risque d'être attaqués en justice par les rights owners, les gens qui ont les droits, soit ils vont devoir mettre un frein à la plateforme, quoi.
Ouais, c'est bon. Ça va être. Je suis curieux de voir comment ça se produit parce qu'en plus, Twitter était vraiment du côté de la liberté de la presse, mais en même temps, là, ils sont en train d'essayer de se rapprocher des médias, donc c'est un petit peu compliqué pour eux à gérer, quoi.
Oui, mais liberté de la presse, c'est une chose.
Liberté d'expression, je veux dire.
Chose, mais piratage de droit, mais c'est indubitable, c'est autre chose.
C'est vrai, c'est vrai. Mais je veux dire, ensuite, ça veut dire qu'il faut qu'ils gardent les identités de tous leurs utilisateurs et qu'ils les donnent quand la justice le leur demande. Ce qui a des implications importantes si, par exemple, la justice d'un pays dictatorial leur demande l'identité de personnes opposées au régime qu'ils voudraient montrer en exemple. Et jusqu'ici, Twitter a plutôt été du côté de la liberté d'expression, en ce sens qu'ils essayaient autant que possible de ne pas donner l'identité de leurs utilisateurs. Donc là, c'est effectivement ces deux contextes extrêmement différents, mais la conséquence est la même pour leurs utilisateurs et pour la manière dont ils gèrent ça. Donc,
Ouais, bah écoute, ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Et c'est comme d'habitude, l'utilisation de la technologie t'amène à des extrêmes qui sont pas toujours celles que tu attends. Et puis tu vois un peu comment les plateformes réagissent. Ouais. Et c'est pour ça qu'on pourra en parler au prochain rendez-vous tech, où on aura quelqu'un qui est attaqué entre 10, 50 et 100 millions de dollars en dommages parce qu'il a fait un périscope.
Tu crois que ça va aller aussi haut que pour ce match, ça va être aussi montré. Enfin, ça va être. Ils vont vouloir faire un exemple comme ça.
Bah, on verra.
Ouais. Bon, très bien.
L'avantage, c'est que je l'ai dit, je l'ai déclaré en public. Maintenant, on verra si je me ramène. Oh, j'avais tort. Voilà. Je t'avais dit.
Eh ben, écoute, on verra effectivement. Merci Jeff. Je sais que tu n'as pas énormément de temps, donc que tu dois filer. On va te laisser partir. Merci encore d'avoir été là. Et puis, on se retrouve au prochain.
Comme d'habitude, ce fut un plaisir. À bientôt.
Ciao, Jeff. Et donc, avant de continuer avec nos news et rumeurs, toujours avec Kassim pour m'accompagner avec... Je regarde à ton icône Skype, là, et je vois cette licorne qui crache du feu. Moi, je la connaissais pas. Donc, la licorne qui crache du feu avec son chat dessus et le drapeau Microsoft, elle est sublime.
Là, c'est pourquoi Microsoft est cool, tu vois. C'est branché, c'est jeune, tout ça. Quoi.
Déjà, le fait de dire c'est branché, je crois que ça te classe tout de suite dans une catégorie d'âge particulière, qui est la même que la mienne d'ailleurs. Bon, donc je voulais effectivement remercier les gens qui soutiennent cette émission, pas sur Periscope, mais sur Patreon. Vous savez que cette émission n'existe que parce que vous la soutenez financièrement, parce que vous me permettez de vivre de cette passion. Et voilà une dizaine de personnes qui participent à l'émission et qui me permettent de continuer à la faire. Mathieu Pereira dos Santos, traveljournaliste.com, j'imagine que c'est pas son nom légal, mais vous pouvez aller peut-être voir ce site. Thomas Blum, Patrice Thierry, Susanna Holt, Elgabar Dark Jodar, j'espère que je prononce bien. On a aussi Franck, Meojifo, Krakatoa 78. Merci à vous tous de participer à l'émission. Merci de contribuer à l'émission. Merci d'ailleurs à Kassim également. vous savez que Patreon est le moyen qui me permet de vivre de ce qui est pour moi une passion depuis presque, allez, ça va faire bientôt 9 ans maintenant, que c'est grâce à vous que je peux continuer à le faire. C'est grâce à vous que je peux payer mon loyer et manger même plus que des pâtes maintenant. Je me permet des sushis et des choses extravagantes. Et si vous estimez que l'émission vaut quelque chose, je pense souvent à la chose de cette manière. Je me dis, si demain l'émission s'arrêtait, est-ce que ça vous emmerderait? Est-ce que vous diriez, oh bah je serais prêt à payer un petit dollar par épisode pour qu'elle revienne? Eh ben c'est peut-être une bonne idée de se dire, je vais considérer l'idée de payer le dollar de toute façon, parce que je pense qu'elle les vaut. Donc voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui apprécient l'émission. Si vous pouvez pas participer, ben il n'y a aucun problème, hein, l'émission est là de toute façon, mais si vous pouvez le faire, c'est vraiment apprécié. Merci à vous tous du fond du cœur. On continue avec les rumeurs et Nokia qui déclare qu'il... enfin, les rumeurs et les petites news rapides. Nokia qui déclare qu'il... Là, c'est une rumeur plutôt, qu'il est possible qu'il revienne au marché du téléphone mobile dès 2016. Est-ce que tu crois que c'est crédible, cette histoire? Je sais que Nokia a démenti en disant « Non, nous, on n'a pas de projet pour le moment. » 2016, Nokia qui revient vers les téléphones mobiles, tu y crois ?
Bah, j'y crois, oui, je pense. Après, est-ce que c'est une bonne idée ? Je suis pas sûr. la question, enfin, dans le sens où toute la partie recherche et développement a été rachetée par Microsoft pour la partie mobile, hein, de Nokia. Et enfin, l'idée là, enfin, au vu de ce qu'ils ont déjà sorti, c'est-à-dire qu'ils ont ressorti déjà une tablette qui s'appelle la Nokia N1, qui avait été développée, conçue et fabriquée par Foxconn. Hormis le logiciel, en fait, ils avaient développé une surcouche pour Android qu'ils installent sur une tablette qui est fabriquée par Foxconn. Ça ressemble à une tablette chinoise, quoi. Elle est développée en Chine, etc. J'ai un peu peur que Nokia succombe à la tentation de vendre sa marque comme d'autres marques l'ont fait auparavant, comme un Alcatel qui n'est plus français, ou comme un autre exemple, c'est les téléphones Wiko, qui en fait Wiko n'est qu'une marque de téléphone chinois, une marque française qui rachète des téléphones chinois sur catalogue et qui les importe en France. J'ai un peu peur qu'ils fassent ce genre de processus de vendre, de finalement que Nokia ne sera qu'une marque
Avec une sorte de coque vide et qu'ils ne fabriquent pas les téléphones eux-mêmes, en fait.
Voilà.
Oui, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on leur, ce qu'on leur souhaiterait. Quoi. Ah, ça si serait un petit peu dommage.
Sortir, mais... C'est pour nous ressortir des super téléphones et tout ça, il n'y a pas de souci. Hein.
Ouais, moi je crois que c'est un peu tôt. Je pense qu'ils reviendront au téléphone mobile, mais je pense que 2016 c'est un peu tôt encore. Et puis, ça arrivera plus tard.
Je trouverais plus intéressant qu'ils se lancent sur des nouveaux marchés, par exemple le marché des objets connectés ou même des nouveaux marchés qui n'existent pas encore. Parce que Nokia n'a pas fait que des téléphones mobiles dans sa vie, ils ont fait beaucoup de choses. Et donc ce serait intéressant qu'ils se lancent sur un nouveau marché plutôt que de revenir sur un ancien où ils ont déjà fait un peu le tour finalement.
Ouais. Peut-être, peut-être. Moi, je crois qu'ils ont quelque chose à faire dans les téléphones, mais bon, on verra ce que ça donne. Il semblerait que Google Glass ne soit pas aussi mort que je le pensais, puisque le fabricant de lunettes italien Luxottica, qui est propriétaire de plusieurs marques de lunettes, serait en train de travailler sur une version 2 des Google Glass, et que la version consommateur finale serait la version 3, et que donc ils sont déjà en train de travailler sur la version 2. Est-ce qu'elle serait présentée déjà au Google I.O. dans quelques temps, on ne sait pas, mais bon, Google Glass, ils sont encore en train de travailler dessus. Ça ne veut pas dire que j'y crois plus, mais à mon avis, je continue à croire que ça va revenir sous une forme peut-être, mais que ça ne s'appellera plus Google Glass. Mais bon, on verra. Rien à ajouter là-dessus ?
Je ne sais pas s'ils se relanceront. Enfin, moi, j'y crois aux rumeurs, mais je pense que les problèmes qui sont à la fois, enfin, les problèmes de société qui avaient posé Google Glass et les problèmes d'usage, pour l'instant, sont pas forcément
résolus. Oui, c'est le problème. Ouais.
Donc, après, s'ils ont une démo, enfin, s'ils ont une killer app ou quelque chose qui montre que c'est super et que tout le monde en veut, voilà. Moi, j'avais bien aimé leur première démo à l'époque. Donc,
ouais. Ouais, moi, je suis toujours pas convaincu. Google est en train de faire dans le reste des pays européens ce qu'ils ont fait en France avec le Fonds pour l'innovation numérique. Un petit peu pour se faire pardonner, ou pas pour se faire pardonner. Je devrais pas dire ça parce que, à mon sens, ils n'ont rien fait de mal. Mais du point de vue de la presse de l'Europe entière, ils sont en train de les assassiner. Eh bien, ils ont ouvert un fonds de 163 millions de dollars qui s'appelle le Google Innovation Fund, qui est un petit peu, comme je le disais, similaire à celui qu'on a en France. C'était un fonds de 60 millions d'euros, si je ne m'abuse, en France, qui devait aider les journaux à faire la transition, à opérer la transition vers le numérique. Et ben là, il y a 8 éditeurs européens qui vont faire la même chose avec Google, avec beaucoup d'argent. Et c'est intéressant que ça arrive au moment où l'Union européenne est en train de faire des enquêtes assez poussées sur Google en général. Donc, je sais pas si c'est un hasard, mais bon, en tout cas, c'est en train d'arriver. Voir ce qu'ils vont en faire de tout cet argent. Moi, j'ai pas vu encore jusqu'à maintenant une utilisation incroyable par les éditeurs français. Je sais pas, toi, Kassim, si tu suis plus la presse, si tu as vu si ça donnait quelque chose de convaincant, tout cet argent qui a été distribué.
Non, mais là, dans ma tête, il y avait le fait que déjà, chaque année, la presse est subventionnée par l'État.
Et j'ai pas remarqué, c'est encore autre chose.
J'ai pas remarqué non plus que c'était qu'ils utilisaient ça de façon magistralement intelligente. Mais du coup,
Disons que ils ont là, c'est un fonds qui est censé être prévu spécifiquement pour la transition au numérique. Donc, ouais. J'ai pas l'impression qu'il y ait des choses impressionnantes plus aujourd'hui qu'avant l'arrivée de ce fonds. Mais peut-être que ça prend un peu de temps et que ça va arriver. Soyons pas mauvaise langue ou défaitistes. Ouais.
Je suis sceptique avec les ayants droit d'une manière générale, mais je suis toujours prêt à être surpris positivement.
Oui. Bah écoute, espérons qu'on sera positivement surpris. Il y a une autre chose qu'on avait un petit peu prévue, c'est cette console Android Ouya qui avait été lancée sur Kickstarter, qui avait fait beaucoup de bruit il y a 2 ou 3 ans. Même un petit peu plus maintenant, qui finalement n'arrive pas à s'en sortir et qui est en train de chercher un acheteur. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais été assez négatif sur cette console en me disant « Oui, c'est bien gentil d'avoir une console sous Android qui soit pas chère mais pas performante, mais le jour où la nouvelle génération de, entre guillemets, vraie console va arriver, ça sera une autre histoire et tout le monde va oublier cette Ouya ». j'avais l'impression que les seules personnes qui croyaient en cette console étaient les personnes qui connaissaient un petit peu la tech et donc qui étaient peut-être intéressées par Android, mais qui connaissaient pas vraiment le jeu vidéo. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que là, la console n'a pas connu le succès qu'on aurait pu lui souhaiter et la société est en train de chercher un acheteur. Donc moi, comme je le disais, ça me surprend pas vraiment parce que les gens qui veulent jouer à une console de salon sont des gens qui vont s'asseoir sur un canapé spécifiquement pour jouer et qui recherchent des vraies expériences de joueurs core gamers. Toi, est-ce que ça te surprend cet échec de Ouya, Kassim ?
Non, pas pour... pas quand le produit, enfin par rapport à la date à laquelle est sorti le produit. Après, je crois plus, ça va pas être forcément des succès interplanétaires, mais je crois plus dans les box sous Android qui sont en train de sortir actuellement, avec un Android qui a été prévu pour, qui est Android télé, notamment la box par exemple de Nvidia qui devrait sortir, parce que ça, c'est surtout une box télé qui va amener tous les services du type Netflix, etc., et qui permet de streamer quand on fait passer partie de la PC Master Race, qui permet de streamer des jeux depuis son PC fixe vers le salon finalement.
Donc, ça, à la limite, oui, mais, voilà, mais les jeux directement dessus, ça, ouais, j'y crois moins.
Pour l'instant, Android n'a pas montré que, comme iOS, c'est des OS qui sont pensés plutôt pour le mobile pour le moment. Il y a pas des expériences, il y a des bonnes expériences de jeu, mais c'est pas des, il y a pas le dernier Call of Duty qui sort sur, pour prendre un exemple bête, ou le dernier GTA qui sort sur Android pour le moment, quoi.
Bah c'est ça, à mon avis, c'est surtout que ce sont pas des expériences qui sont pensées pour des joueurs qui sont assis dans leur canapé et, comme je le disais, qui veulent un jeu vidéo pour de vrai, quoi, qui vont y passer une heure, deux heures, qui veulent un vrai jeu, quoi.
Le problème aussi, c'est que en fait, ce genre de fabricant. Ce que font Microsoft ou Sony ou Nintendo dans une certaine mesure, mais surtout Microsoft et Sony, quand ils fabriquent une console, ils la fabriquent, c'est la boîte, oui, ok, d'accord, mais surtout ils passent beaucoup de contrats, ils travaillent beaucoup avec les développeurs de jeux ou
c'est
les éditions pour sortir, pour sortir des jeux sur leurs consoles respectives. J'ai du mal à imaginer Ouya ou même Nvidia ou d'autres en train de parler à Ubisoft, ou... alors qu'il faudrait ce genre de contrat en fait, faudrait convaincre. Ubisoft, Activision, des gros éditeurs de faire des jeux pour leur console spécifiquement, avec le matériel spécifiquement pour l'optimiser, etc.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'était un petit peu trop de tout et pas assez de ce qui est important, en fait.
Et puis voilà, et c'était avant les Android télé, il est sorti trop tôt, selon moi, le produit aussi.
Ouais, moi je crois que trop tôt ou trop tard, ça aurait rien changé, quoi. Trop tôt ou pas, c'est tôt ou je sais pas quoi, Ouya de toute façon, bon.
Oui, bon.
Android télé, c'est autre chose, mais Ouya en tant que console de jeu, c'était une cible spécifique qu'ils pouvaient pas atteindre, je crois, mais bon.
Oui.
Jay-Z parle de Tidal. Tidal, c'est ce service de musique lancé aux États-Unis par des ayants droit, par des musiciens, qui a été un petit peu enterré par la critique et un petit peu moqué. Il était censé venir concurrencer Spotify, Deezer, etc. Et il s'est très vite cassé la figure dans les tops des applications sur iOS. Et le truc, c'est que on a commencé à pointer du doigt parce que c'était des artistes déjà très riches qui disaient « les artistes ont besoin d'avoir un petit peu d'argent ». Moi, ça m'a un petit peu interpellé, parce que Jay-Z est venu défendre le service et dire que tout va bien, et qu'ils ont déjà beaucoup d'abonnés et que ça se construit sur le long terme. Mais là où ça m'a interloqué, c'est que je comprends pas pourquoi on se moque de ces gens-là, parce que oui, bien sûr que ce sont des gens déjà riches qui vont lancer un service comme ça, ça va pas être des gens qui n'ont pas d'argent qui vont faire ce genre de choses, mais ce sont des artistes qui vont directement à la rencontre de leurs clients, en fait, de leurs fans, qui vont vendre directement leur musique aux gens qui veulent l'acheter. Et c'est le principe même du net, cette désintermédiation, le fait de ne pas avoir à passer par un gros label ou un gros studio, ou même à la limite, ils se transforment un petit peu en Spotify eux-mêmes, mais pourquoi descendre des artistes qui vont utiliser Internet pour ce pourquoi il est prévu, c'est-à-dire le fait d'avoir un accès direct à vos aux gens que, auxquels vous voulez parler. J'ai pas très bien compris pourquoi tout le monde se moquait d'eux. C'était un petit peu marrant de voir que c'était Jay-Z, Beyoncé et Madonna qui disaient les artistes ont besoin de manger aussi. Et attention, ces pauvres artistes n'ont plus d'argent. Évidemment, c'était un petit peu malhabile peut-être, mais il n'empêche. Si jamais ils ont un deal qui est, il me semble, plus intéressant que les autres services de streaming, ils essayent de faire les choses bien pour les artistes avec lesquels ils travaillent. Moi, je pense que c'est au contraire, ça devrait être encouragé cette initiative, même si c'est Jay-Z qui a beaucoup d'argent, etc. quoi. Mais non, je sais pas. Moi, ça m'a paru étrange cette.
Après, j'ai moins suivi parce que c'est plus. People,
c'est très mais, américain, c'est
puis
vrai.
Ouais, très, puis je suis pas utilisateur de services de musique, j'écoute beaucoup de podcasts.
C'est très très bien. Bravo Cassim, j'approuve.
J'ai pas beaucoup de temps, enfin du coup je suis pas très utilisateur.
D'accord, bon, bah, en tout cas peut-être que Tidal arrivera un jour chez nous, mais j'espère qu'il tiendra jusque-là. Mais moi ça m'intrigue plus qu'autre chose.
Enfin, chacun a le droit de se jeter à l'eau, mais j'ai un peu du mal souvent avec les services qui. Enfin, c'est un autre. Juste un service de plus qui fera comme. J'ai un peu l'impression que c'est un service de plus qui fait comme les autres qui sont déjà sortis avant. Du coup, enfin, à voir quoi. Mais en gros, il y a déjà Spotify quoi.
C'est sûr.
C'est un peu. Voilà.
C'est vrai. Bon, un autre service qui est resté un petit peu américain, c'est Secret. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était, je voulais le mentionner parce que c'était un petit peu le truc hyper à la mode il y a un an et demi aux États-Unis. C'était ce service de messages anonymes, un petit peu de la Silicon Valley. Eh bien, ils ferment déjà, ils rendent leur argent à leurs investisseurs et Secret ferme. Mais ça ne veut pas dire que toutes ces applications de secrets et de messages anonymes ferment. Whisper, par exemple, fonctionne encore très bien. Ils ont plus de 10 millions d'utilisateurs actifs. Secret avait un modèle un petit peu différent, c'était genre tous les utilisateurs, tous les gens de notre... On voyait ce que disaient les gens de notre liste de contacts sans savoir qui disait la chose. Donc, c'était un petit peu à mi-chemin entre anonyme et pas anonyme. C'était un petit peu bizarre. Je comprends qu'il se soit cassé la gueule, mais c'est marrant de voir qu'au bout d'un an, ce truc qui était énorme pendant un moment est déjà terminé, quoi.
Ils sont morts avant même qu'on ait eu la chance de leur demander de porter une app vers Windows Phone.
Ça veut dire qu'ils n'ont vraiment pas fait long feu. Hein. Pour finir avec un petit peu de topo sur le renseignement, j'ai d'abord un truc sympa qui est un capteur qui peut scanner votre iris à plus de 10 mètres. C'est pas mal ça, comme perspective intéressante pour le futur. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. On pourra bientôt... Oula, j'ai une pub qui commence à jouer. Tais-toi, Braun. Bon, tant pis. Je reverrai pas l'article lui-même. Mais bon, voir l'iris à 10 mètres, c'est carrément, carrément inquiétant, quoi. On peut vous identifier où vous soyez à 10 mètres avec votre iris. Bon, ok. Mais pour en revenir au sujet qui nous intéresse, le projet de loi sur le renseignement, d'une part, je voulais dire que François Hollande a annoncé qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel. On l'avait déjà dit la dernière fois, il y a plusieurs députés qui avaient annoncé qu'ils voulaient saisir le Conseil constitutionnel pour voir si la loi ou certains de ses éléments étaient ou non anticonstitutionnels. François Hollande, face à la grogne, a annoncé qu'il allait le faire lui-même. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Moi, j'espère que le Conseil constitutionnel mettra des drapeaux là où vraiment il y a des gros soucis, au-delà des amendements qui ont déjà été votés, même s'ils ne sont pas satisfaisants. Ça a été... finalement, je pense qu'on a fait autant de bruit qu'on pouvait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont annoncé, enfin qui m'ont dit sur Twitter et ailleurs qu'ils ont eux aussi contacté leurs députés. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Et je vous remercie, même si bon, c'est pas pour moi, mais je vous remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir joué le jeu de la démocratie. Je pense que c'est quelque chose d'important. On a fait ce qu'on devait, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on verra. Le Conseil constitutionnel va être saisi. Il y a des amendements qui ont été votés. La loi, je pense, va être votée sans problème. Mais le Conseil constitutionnel aura son mot à dire et c'est déjà quelque chose d'important. Je pense que c'est quelque chose qui ne se serait pas passé si on n'avait pas fait tout ce ramdam. Donc, et je dis on, bien sûr, toute la sphère tech, évidemment. Et je voulais exposer une théorie du complot que j'ai à propos de toute cette histoire. Kassim, tu vas me dire si ça te paraît crédible ou c'est juste Patrick qui est un petit peu fou.
Il y a une connexion entre le projet de loi sur l'enseignement et le 11 septembre.
Non, pas exactement. Mais par contre, je pense que dans ce projet de loi sur le renseignement, ils ont passé énormément de lois et pas que celles sur la surveillance de masse sur Internet. Et je me demande si quelque part, ils n'ont pas poussé sur le devant de la scène cet aspect de la loi pour occuper tout le monde en sachant qu'il y avait des choses pas forcément acceptables, en sachant qu'ils allaient devoir faire des amendements, en sachant que le Conseil constitutionnel allait devoir dire son mot sur la chose, et en attendant, derrière tout ça, ils sont en train de faire passer des lois auxquelles on s'intéresse beaucoup moins parce qu'il y a celle-ci qui est complètement outrageuse et ce dont ils se rendaient compte. Et derrière tout ça, il y a des lois qui sont en train de légaliser des pratiques qui étaient illégales jusqu'à maintenant et qui nous auraient été beaucoup moins agréables à constater si on y avait jeté un coup d'œil un petit peu plus attentif. Et là, forcément, puisqu'on a été tellement occupé par cet aspect surveillance de masse, on n'a pas été chercher plus loin. Qu'est-ce que t'en penses, Kassim ? Je mets mon chapeau en aluminium ou il y a peut-être un peu de vrai ?
En écoutant ta théorie, je pensais surtout à Frank Underwood de House of Cards parce que ça faisait un peu justement technique, stratégie, politique.
Communication politique, ouais.
Oui, on va leur mettre un gros truc en avant pour faire passer les trucs derrière discrètement. C'est possible. Après, comme toute théorie, le problème c'est les preuves. On saura pas quoi.
Il suffirait d'aller regarder toutes les lois qui font partie de tous les éléments qui font partie de cette loi.
Ça fait partie des classes. Enfin, j'ai l'impression que ça fait quand même partie des technique classique entre guillemets, ça et le fait de voter une loi à minuit ou le 31 avril ou ce genre de choses, mais ouais.
Je crois que s'il y a des juristes dans l'assemblée, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous allez lire la loi qui sera votée aujourd'hui, quand on enregistre ça sera demain tout simplement, lire la loi qui sera votée et vous pourrez nous dire s'il y avait des choses encore plus dramatiques qui ont été votées avec.
Je sais pas si je suis d'accord avec toi parce que tu as raison ou si je suis d'accord avec toi parce que je suis aussi complotiste et que moi aussi j'ai peut-être besoin d'un chapeau.
Ouais, bon, écoute, on aura, je pense, la réponse quand la loi finale sera devant nos yeux. Bon, vous remarquerez que je suis moins déprimé qu'à l'épisode précédent avec tout ça, donc maintenant on a fait ce qu'on devait faire et c'est déjà pas mal. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. On a parlé du 1 billion devices de Windows 10. On a parlé du Powerwall et de la révolution énergétique. On a parlé de l'Apple Watch qui me laisse un petit peu tiède. Et je pense que c'était un épisode assez dodu, effectivement, même si on s'est tenu quasiment à l'heure 30. Presque, malgré la grosse partie Microsoft. Et maintenant, on ne pourra plus me dire que je ne parle pas de Microsoft. Hein.
Je ne l'ai jamais dit.
Ah, c'est vrai. Je pense que c'était important, c'est sûr, de parler de tout ça, parce que Windows 10, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de l'importance que ça a et de l'importance que ça a pour Microsoft. En conclusion, je dirais que ce dont je parlais il y a quelques mois déjà, cette impression que Microsoft est audacieux et cool, que c'est une société dont on a envie de parler est en train d'être répété par un bon nombre de personnes. Tout le monde a cette impression que Microsoft est en train de devenir cool et déjà ça en soi c'est un événement, donc ça vaut la peine d'en parler.
Si on m'avait dit ça il y a 10 ans quand j'étais étudiant au collège ou au lycée et que à l'époque où Microsoft était AI littéralement, c'était Vista à l'époque, Vista ou Internet Explorer,
c'est ça,
Xbox for Gaming Live, enfin où je suis for oui. Windows Live sur Windows, c'était l'époque noire quoi. Si on avait dit qu'un jour on dirait que Microsoft est cool.
Comme quoi, ah, je l'ai, là encore, bon, je fais un petit peu mon, je l'avais dit, mais quand je disais il faut jamais enterrer Microsoft,
faut jamais enterrer une entreprise de toute façon d'une manière générale.
Oh, je crois qu'il y en a qu'on peut un petit peu enterrer plus que d'autres, mais
non, mais à une certaine taille, quoi. Je veux dire, un Google ou un Apple peut toujours revenir, même s'ils ralentissent sur un marché, par exemple.
Oui. Je crois que Microsoft, moi, il y a beaucoup de gens qui n'en auraient pas donné très cher, hein, il y a ne serait-ce que 3 ans.
Je mettrais Intel, voilà, dans les sociétés avec Microsoft, qu'on condamne. Intel avec ARM, par exemple, on les avait condamnés il y a quelques années à une mort, enfin à une descente à cause des processeurs mobiles. Et finalement, bon, ils ont encore du mal sur le mobile, mais ils reviennent, je trouve.
C'est sûr, oui, tout à fait. Bon, et ben en tout cas, merci beaucoup Kassim d'avoir été là pour cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet et les émissions que tu fais, les sites auxquels tu participes ?
Oui, déjà, c'est toujours un plaisir de venir. Puis je commence à me sentir voilà, au chaud, ça fait quelques émissions.
Oui, c'est ça, t'as ta place, t'as les coussins dans le coin, très bien, très bien.
Et donc on peut me retrouver donc en premier donc sur Twitter où je dis des bêtises, @notkassim. NOTCA2SIM.
Très très bon pseudo.
Oui, voilà. Et on sait pas où je l'ai eu. Et sinon, on peut m'écouter dans Lifetile, qui est un podcast donc dédié à l'actualité de Microsoft, où on interview aussi des employés de Microsoft. Mais où on essaye, on n'est pas non plus, on n'est pas un podcast officiel ni rien, on n'est pas des cheerleaders ou quoi, c'est juste on essaye voilà, d'être un peu, de suivre de près l'entreprise pour vraiment analyser ce qu'elle fait. Donc, mais on critique quand il faut quoi. Donc c'est toutes les 2 semaines sur lifetype.fr et sinon j'écris pour Frawin qui est l'équivalent du site Frandroid bien connu pour la communauté Android, mais sauf que donc c'est dédié à l'univers Microsoft et donc c'est sur frawin.com, FRAWIN.
Super, merci Kassim. Pour ma part c'est NotPatrick sur Twitter, vous le savez, je suis aussi NotPatrick sur Facebook, j'ai le French Spin, sur Facebook et je suis aussi sur Google+, Patrick Béja. Vous pouvez retrouver cette émission et d'autres sur frenchspin.fr. Vous retrouverez le rendez-vous jeu, par exemple, si vous aimez un petit peu les jeux vidéo. Vous pourrez les retrouver là-bas. C'est un petit peu le rendez-vous tech, mais pour le jeu. D'où le titre intelligemment choisi. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur l'émission sur ce même site, sur frenchspin.fr. Venir nous dire si vous pensez qu'on a trop parlé de Microsoft pendant l'épisode, du coup, ça serait marrant. Si vous avez des commentaires sur Tesla et la manière dont il pourrait ou non changer les choses dans le domaine de l'énergie. Vos impressions peut-être sur l'Apple Watch, je serais curieux de les avoir aussi, si elles sont similaires aux miennes ou si vous étiez déjà adepte des smartwatches, est-ce que celle-là vous plaît plus ou moins que celle que vous avez déjà, etc., etc. Si on a dit des bêtises, vous pouvez venir nous corriger. L'émission vit grâce à vous sur le site frenchspin.fr. Donc je vous remercie de venir laisser vos commentaires. Vous pouvez aussi soutenir l'émission, vous le savez, sur patreon.com/rdvtech. Si vous êtes déjà un soutien de l'émission, n'oubliez pas de mettre à jour votre petite carte bleue, sinon votre contribution n'est pas comptée. Il y en a, je le mentionne de temps en temps, mais il y en avait beaucoup ce mois-ci de cartes bleues non mises à jour et donc de contributions rejetées. Donc voilà, je voulais le mentionner pour me rappeler à votre bon souvenir, au bon souvenir de mes patrons préférés. Et voilà, ça va être tout pour cet épisode. On se dit donc au revoir pour 15 jours. On se retrouve ça sera le 18 mai. J'espère que l'été ou au moins le printemps sera vraiment arrivé d'ici là. Et pour vous tenir chaud, si ça n'est pas le cas, je vous fais plein de bisous et plein de câlins du rendez-vous tech. Ciao à tous, à très vite.
Ciao.